Hello, comment tu vas?
Bien, j'ai finalement trouvé comment enregistrer l'appel localement sur mon ordi. Donc, ça m'a pris quelques trials and errors dans les énormes settings de Zoom, mais c'est fait, donc victoire.
Top, on s'améliore, on s'améliore.
Absolument. Nouveau background pour les deux. T'es caché où?
Je suis toujours chez moi, dans le sud de la France. Donc ça n'a pas changé. Mais par contre, là, c'est marrant, juste avant l'appel, je me suis fait une bibliothèque en hauteur pour décorer, tu la vois un peu dans le coin. Et j'ai mis des livres, et il y a un livre qui vient de me tomber sur la gueule il y a 5 minutes. Et comme par hasard, c'est le livre qui s'appelle Design Thinking. Donc c'est vraiment un message pour me dire, arrête de faire des trucs jolis, pense aussi au fonctionnel.
Bien. Et moi, je suis à Milan, du coup, encore jusqu'à demain.
Ok.
Très sympa. J'avais des gros préjugés sur cette ville. Parce que du coup, j'ai que fait traverser cette ville, je ne me suis jamais vraiment arrêté. Et en fait, c'est assez sympa. Il y a évidemment le centre qui est super touristique, mais un peu le deuxième cercle, comme ça, où tu es un peu résidentiel, qui est sympa. Et là, moi, je suis en train de faire home exchange pour la première fois, donc je ne paye pas, je vis chez quelqu'un, plus ou moins gratuitement, et c'est assez bizarre comme ambiance, mais c'est sympa.
Ok. Du coup, il y a quelqu'un chez toi en Suisse?
Eh ben, c'est le concept, mais ils ont aussi ce concept de points. Et du coup, en fait, tant que tu as des points, tu peux
Ok.
juste payer. Et donc, en fait, quand tu crées ton compte, tu reçois 1000 points. Et donc, j'ai juste abusé ce système et je dépense juste mes 1000 points et sans devoir héberger qui que ce soit chez moi.
Ah ouais, j'avais vu ça aussi, j'ai regardé le site et je trouvais ça abusé que justement tu aies ce nombre de points dès le début parce que ouais, ça te permet de. Enfin, je sais pas, selon les endroits, je sais pas combien de temps tu peux vivre là avec ça.
Ouais, en tout, là, j'ai ça. Avec ce voyage et un autre que j'avais fait, j'ai bien vécu 15 jours chez les gens, gratuitement. Donc, ils ont eu un peu une inflation de points. Mais du coup, la grande nouvelle, c'est The money is in.
The money is in. Effectivement. Mais ce n'est pas la fin. C'est ça qui est marrant.
Ah,
C'est que les choses ne sont jamais aussi simples. En fait, j'ai de l'argent, mais là, je suis encore perdu dans des questions fiscales qui font que je ne peux pas vraiment dépenser l'argent pour l'instant avant d'avoir répondu à un certain nombre de problèmes fiscaux. En
OK.
fait, là, l'argent, il est sur la société américaine. Et toutes les opérations sont encore sur la société suisse. Donc je pourrais en parler plus en détail, mais en gros, je ne peux pas vraiment l'utiliser pour l'instant. Mais voilà, d'ici un mois, tout devrait être résolu. Comme je disais la dernière fois, je paye des gens très cher pour bien des trucs. Mais voilà, on arrive gentiment au bout. L'argent, il est là et il ne manque plus qu'à pouvoir l'utiliser.
Et how does it feel? Parce que j'avoue qu'il y a quand même petit, c'est quand même, enfin, ça doit quand même être un sentiment intéressant d'avoir tout d'un coup. Je sais pas si tu veux dire la somme,
Alors,
mais ce genre de somme sur un compte bancaire.
ouais, l'investissement, c'est 250 000. J'avoue que la notification, quand tu reçois, hop, 250 000 ont été crédités sur votre compte, ça fait bizarre, ça fait tout bizarre. T'as beau avoir préparé ça pendant des mois, t'es pas vraiment prêt, quoi. Enfin, en tout cas, pas la première fois. Non, non, même si tu t'y prépares, même si tu sais. Le moment où tu reçois l'argent, tu as encore ce boost un peu d'adrénaline. Tu dis waouh, c'est génial. Surtout que ce n'est pas un argent, disons, nécessaire dans le sens où dans 2 mois, on est en faillite. J'avais quand même pas mal réduit les dépenses. Donc, on est sur une situation du projet où je ne me suis pas mis dans un risque financier énorme. C'est un argent qui fait vraiment plaisir, quoi.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un prêt, quoi. C'est un investissement et tu peux faire ce que tu veux avec cet argent. Il n'y a pas d'attente que tu le rendes ou comme ça. Donc, ouais, je pense que c'est vrai que c'est un peu absurde aussi. Je sais pas si tu en as parlé à tes parents comme ça, mais tu vois, du coup, eux, il faut travailler 10 ans peut-être pour accumuler ce genre de somme. Et là, comme ça, hop, l'argent est sur le compte. Évidemment, il faut faire quelque chose avec, mais c'est. Ouais, enfin. Je pense maintenant que tu comprends pourquoi
Ouais, bah.
les gens disent que c'est addictif de lever des fonds et
C'est
le...
sûr, c'est sûr. C'est un autre jeu en fait. Il y a le jeu de générer des revenus. qui est, disons, le vrai jeu normalement. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont une autre manière de voir les choses, et le jeu, c'est de lever de l'argent, parce qu'après tout, si tu arrives à lever 250 000, ça te fait vivre pendant 2 ans avec un bon salaire. Pendant 2 ans, tu fais des trucs sérieux, tu bosses bien sur ton projet, mais au bout de 2 ans, ton projet n'a pas décollé et échoue. On avait rencontré cette personne à San Francisco qui nous avait dit qu'elle avait échoué, enfin, échoué justement, qu'elle avait levé des fonds, le projet avait été racheté assez tôt, donc la notion de succès est relative. Mais il disait, je vais me relancer direct et tout va bien, quoi. J'ai une expérience maintenant de fondateur, donc c'est encore mieux, en fait. Nous, on pensait que ça allait être plutôt une tâche sur le CV, mais non, en fait, c'est une expérience. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui voient ça vraiment comme le vrai jeu, en fait. Et au final, les revenus peuvent être accessoires pour certains, tant que tu arrives à convaincre des investisseurs. Bon, après, c'est vrai que si tu fais ça 3 fois et que 3 fois, ton truc n'a pas généré de revenus, je pense que là, ton CV, il est cramé. Mais c'est vrai que oui, tu peux vivre d'argent complètement factice, comme ça, sans avoir vraiment rien créé.
Alors, je pense que ça va être le sujet de la journée. Donc, à quoi ça ressemble, je pense, concrètement, de lever des fonds? Je pense qu'on a tous vu un peu les films, le film sur Facebook ou peut-être sur Uber ou des choses comme ça où on a une idée de un peu de la Silicon Valley vibe comme ça. Mais concrètement, pour un petit Suisse, pour un petit Français qui débarque à San Francisco, raconte le processus. Enfin, moi, dans mes souvenirs, ce qui était intéressant, c'est que ça avait l'air extrêmement pénible sur la durée, mais en fait, il a suffi de trouver le bon investisseur, puis en fait, après, c'était super rapide. Mais ouais, alors je serais curieux d'avoir ton
Ouais.
expérience un peu depuis le début.
Ouais. Alors, comment ça commence tout ça? Ça commence donc, tu décides que tu as besoin d'argent. Alors, on va parler, ouais, juste de lever de l'argent dans la Silicon Valley, parce que c'est assez différent en Europe et ailleurs.
Pourquoi
Mais dans la Silicon Valley,
si tu veux raconter aussi, parce que tu avais essayé aussi justement de parler avec quelques-uns en Suisse, peut-être que ça.
ouais, j'avais essayé rapidement, mais je suis pas vraiment allé très loin dans le processus. Bon, je m'étais fait un peu une idée du processus dès le début, mais après, je ne peux pas vraiment en parler en l'ayant vraiment fait, mais on pourra faire les parallèles. En tout cas, dans la Silicon Valley, et pour un Européen, parce que ça change aussi beaucoup de choses, si tu es un local là-bas ou si tu es quelqu'un d'externe. Donc, pour une personne externe comme moi, donc, on est allé il y a quelques mois à San Francisco tous les deux, moi dans l'objectif plus ou moins défini de lever des fonds. Quand on est arrivé là-bas, je n'avais pas encore vraiment complètement défini si je voulais lever des fonds ou pas. J'ai fini de prendre ma décision là-bas. On pourra reparler d'ailleurs du besoin de lever des fonds ou pas, de cet aspect de prendre la décision. Mais en tout cas, une fois qu'on a décidé qu'on veut lever des fonds, qu'est-ce qui se passe? Le truc, disons, une des grosses différences que j'ai vues par rapport aux films et aux séries qui parlent de la Silicon Valley, c'est qu'on rencontre jamais les investisseurs. En fait, c'est très dur d'avoir un rendez-vous avec un investisseur. De par le problème numéro un qui est le réseau. En fait, la plupart des gens là-bas, qui sont des locaux là-bas, ils ont un réseau là-bas, comme nous, on a un réseau ici. Et en général, c'est ce réseau qui leur permet de rencontrer des investisseurs. Donc, si tu as grandi là-bas, tu vas peut-être avoir ta tante qui a un copain qui est investisseur, ou tu vas peut-être faire du tennis avec le fils d'un investisseur, ou j'en sais rien. Mais c'est quelque chose que j'ai vu là-bas en discutant avec des locaux. C'est qu'il y a plein de founders qui ont trouvé leur investisseur dans des situations plus ou moins privées ou liées au privé, de par le fait qu'ils connaissaient des gens là-bas. Quand on arrive et qu'on ne connaît pas, alors, selon le temps qu'on y va, et on peut arriver à se créer un réseau et créer un peu ces effets-là, mais pour quelqu'un qui arrive d'externe, l'idée de juste sonner au bureau d'un investisseur et le rencontrer, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, pas comme on le voit dans les. Alors, c'est peut-être comme ça que ça se passait. Je pense notamment à la série Silicon Valley, où à un moment on les voit, ils font le tour de tous les bureaux d'investisseurs. C'est peut-être comme ça que ça se passait il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. En tout cas, maintenant, tout se fait en ligne, en fait. Donc, on va identifier les venture capital qui nous intéressent, donc où on les intéresse, en fait. Qui ont un objectif et des domaines liés aux nôtres. Et une fois qu'on a identifié ça, on va aller chercher les partenaires, enfin, on va bien regarder leur site et on va envoyer des emails. Et en fait, la plupart du processus, c'est envoyer des emails. En tout cas, pour moi, ça a été ça. J'ai rencontré très peu d'investisseurs, ou même j'ai eu très peu de calls au final, très peu d'appels, mais j'envoyais beaucoup d'emails. En fait, c'est ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il faut, il faut avoir une centaine de noms avant d'avoir un oui. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. En fait, j'ai dû envoyer, plus, je pense, plus d'une centaine d'emails, enfin, en tout cas, plus d'une centaine d'investisseurs différents. Et au total, il doit y avoir une dizaine de personnes qui m'ont répondu, ou peut-être un peu plus, une quinzaine, et dans cette dix, à peu près la moitié de cette quinzaine, m'ont dit oui, l'autre m'ont dit non. Donc en fait, la plupart des interactions, c'est juste pas de réponse. Et ça, c'est quelque chose qui, on le sait, si on demande à quelques personnes, ils nous disent assez rapidement qu'il faut persévérer, c'est normal d'avoir plein de noms, mais ça fait toujours bizarre de le vivre.
Et puis,
Mais
à
donc voilà,
quoi
enfin, en tout cas, pour...
ressemblaient les emails que tu as envoyés, par exemple? Et puis, est-ce que tu renvoyais plusieurs emails ou juste un email? C'était quoi un peu le format?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pitch, autant le pitch deck, donc les slides, que la manière d'envoyer les emails, la manière de faire, j'ai appris continuellement sur tout le processus. Jusqu'à la fin, je changeais des trucs et pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Ce qui est sûr, c'est que dès le début, j'ai pris l'habitude d'envoyer plusieurs emails, donc d'envoyer des follow-up. Alors, je pense qu'il y a des investisseurs à qui j'ai envoyé 5 ou 6 follow-up. Bon, au bout d'un moment, ça fait rien, quoi. Mais je pense que c'est quand même bien de le faire. Et puis, à quoi ressemblait l'email? Bah, ça a pas mal changé. La ligne directrice, le conseil général, ça a toujours été de garder les choses simples. L'email, il doit être super facile, super court, avec quelques catchlines pour attirer l'attention. Voilà, ça a été la ligne générale. Après, certaines personnes m'ont dit, mets le pitch deck avec, d'autres, mets pas le pitch deck, attends que je le demande. Ça, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Justement, il y a plein de manières de faire. Mais le processus, c'était ça. Une fois que j'avais trouvé la personne que je voulais contacter. Alors, souvent, il y avait un jeu de trouver l'email aussi, parce que l'email est souvent pas public. Mais en fait, si tu joues au jeu de faire nom, point prénom, arrobase, nom de domaine, ça marche souvent. Et, je me suis même amusé à faire un plugin Chrome qui me faisait ça automatiquement, qui testait plein d'emails avec juste le nom de quelqu'un. Mais une fois que tu as trouvé l'email, voilà, après, bah, c'est assez simple en fait, c'est ça. T'envoies et tu regardes ce qui se passe.
Et puis du coup, donc, si on réduit la sample size et on enlève tous ceux qui ont dit non ou pas répondu, est-ce que tu vois une différence? Parce que typiquement, pour ton assesseur, là, c'était pas un email, c'était un formulaire à répondre, ou un truc comme ça, non? Ou, enfin, là, il n'y a même pas d'email, en fait,
Oui,
finalement.
il y en a, ouais. Ouais, il y en a quelques-uns où c'était des formulaires en ligne aussi.
Ok, ouais.
Mais je vois pas, enfin, je pourrais pas vraiment donner de corrélation par rapport à ça, quoi. Il y a des investisseurs où je pensais vraiment qu'ils allaient répondre parce qu'ils avaient
Ouais.
une ligne directrice qui était enfin, vraiment très alignée avec mon projet. Et ils ont jamais répondu. Et d'autres où bah, je pensais un peu moins, enfin, je les ai moins mis parmi les best investisseurs qui ont répondu, donc on peut pas savoir en fait.
Et puis du coup, donc une fois que enfin, maintenant, ceux qui ont répondu oui, qu'est-ce qui se passe ensuite? Enfin, disons, quand ils répondent, enfin, j'imagine ça veut dire oui, intéressé à faire un appel, ou c'est oui, on investit tout de suite.
Non, c'est oui, intéressé à faire un appel. Je sais plus combien d'appels j'ai eu au final, je pense peut-être entre 5 et 10, quelque chose comme ça, d'appels de meeting. Les appels, c'est bon, c'est assez intéressant, enfin, c'est assez straightforward, je trouve. Il faut connaître tous les chiffres clés de son business. Faut être prêt à montrer une petite démo, mais je crois qu'au final, j'ai très peu montré de démo dans mes appels. Et c'est juste, ça, c'est assez rapide. Les appels, en général, ils durent 10 minutes, je crois. 10-15 minutes, pas plus. Et l'investisseur, il sait les questions qu'il veut poser, donc t'es juste là pour répondre aux questions, quoi. Après, ce qui est important aussi, c'est dans ces appels-là, en général, tu arrives à te faire une idée de l'investisseur aussi, de qui t'as en face. Et moi, ça m'est arrivé justement de faire des appels à des investisseurs ou de par les questions qu'ils posent, j'ai senti que ça allait pas le faire. Tu sens un petit peu qu'est-ce qui intéresse l'investisseur, et des fois tu sens que c'est pas ce qui t'aligne, et
Tu te rappelles
l'investisseur
l'exemple
pourrait
ou...
être embêtant en fait. Bah, des investisseurs qui posent un peu trop de questions sur les chiffres, sur la croissance, tout ça. Tu sens qu'ils vont être derrière ton dos, ils vont vraiment suivre ça de près, ils vont te saouler quand les choses grandissent pas, quoi. Alors après, ça peut être une bonne chose, hein, mais enfin, de manière générale, je pense pas que c'est une bonne chose. Dans les conseils que j'ai reçus, mieux vaut éviter quand même. Et surtout quand tu es un premier tour d'investissement, éviter les investisseurs qui sont un peu trop orientés croissance, en fait. Dans les premiers tours d'investissement, tu cherches des gens qui sont alignés avec l'idée de ton projet. Et c'est après, plus tard, je pense, que tu récupères les investisseurs qui, eux, vont vraiment surveiller ta croissance et t'engueuler si ça ne croit pas.
Ouais, enfin, je me rappelle, tu avais eu cet appel avec ce requin, entre guillemets, ce requin VC. C'est quoi, comment tu comparerais un peu les différents types de personnes que tu as rencontrées? Enfin, déjà aussi, que des hommes, aussi des femmes, c'est quoi un peu l'éventail des différents types de personnes qui en parlent, hein? Est-ce que c'est des partners, entre guillemets, des décisions? C'est souvent, je sais pas, des juniors qui font juste un peu la première sélection.
Non, j'ai eu que des appels avec des partenaires. Les seules fois où j'ai eu des appels avec des juniors, c'est quand c'est eux qui me contactaient. Et encore, même dans ces cas-là, j'ai eu des partenaires. J'ai eu que des appels avec des partenaires. Je crois que tous les appels que j'ai eus, c'était des hommes. Après, dans les interactions par email que j'ai eues, il y avait des femmes aussi. Et alors oui, différence de feeling entre ouais, des gens que j'appelle des requins et d'autres, bah justement, c'est ce que je disais, en fait, les questions qu'ils te posent, il y en a un qui va être vachement intéressé par les chiffres, et aussi dans sa manière d'être, qui te fait un peu sentir qu'il sait mieux que toi, et que justement tu sens qu'il essaie de créer cette relation d'autorité. Vis-à-vis d'un autre qui va être réellement intéressé par le projet, qui va te poser des questions sur la vision, voilà, un peu l'évolution, mais moins sur est-ce que tes revenus ont grandi ce mois-ci, de combien, tout ça, et qui va plus avoir cette vision de l'égalité entre vous, quoi. Ça, c'est ce que j'ai un petit peu ressenti. Après, il
Ouais.
y a de tout, quoi.
Et donc,
Mais voilà, de manière générale, je ne pourrais que réitérer ce conseil que j'avais lu dans un podcast, je ne sais plus trop de qui est que si le film il n'est pas bon, faut pas se forcer, quoi.
ouais, après, tu fais ces appels et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est we'll get back to you, un truc comme ça ou...
Ouais, alors après, ça dépend. J'avoue que là, j'ai pas eu beaucoup d'interactions post-appel. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'après l'appel, ils te font une proposition, tu peux discuter, négocier. Éventuellement, ils vont te demander plus de données. Ça, c'est vrai qu'ils font souvent. Te demander accès à tes systèmes de mesurement pour un peu regarder tes données. Voilà, un peu de négociation sur ce qu'ils investissent et pour combien, et après ça va vite, quoi. Alors, ça va vite quand, encore une fois, tu as une entité US. Moi, il s'est encore passé, je pense, bien un mois entre le moment où ils ont dit oui et le moment où j'ai reçu les fonds, parce que j'ai dû créer l'entité US. Et créer l'entité US, c'était super simple, mais ça prend du temps quand tu es une personne étrangère, encore une fois.
Bon, là, tu donnes quand même l'impression que c'était relativement facile en fait. Enfin, donc, en hindsight, comme ça, lever des fonds, pas. Enfin, ça, peut-être, ça faisait plus peur en théorie qu'en pratique quand même.
Ouais, en fait, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais j'adore cette métaphore. C'est comme quand tu skies et que tu descends dans un grand mur de bosse. Quand tu es dedans, tu souffres un peu et t'es pas trop confiant. Puis quand tu es en bas du mur, tu le regardes et tu te dis, oh, en fait, ça va, c'était pas très compliqué. C'est un peu pareil. L'arrivée de fond, pour moi, quand tu es dedans, c'est assez difficile de voir que tu vas t'en sortir et que ça va marcher. Et en fait, une fois que ça marche, une fois que tu sors de là, bah, tu te dis, en fait, ça va, c'était pas si compliqué. Et c'est vraiment ça, je trouve. Et en fait, pour moi, qu'est-ce qui fait ce sentiment? C'est parce que pendant que tu es dedans, tu vois pas trop de progrès. C'est-à-dire que les 99 personnes qui te disent non, t'as pas l'impression de progresser. Et à un moment, quand quelqu'un va te dire oui, bah en fait, c'est ah, bah en fait, c'est bon. Mais t'as pas senti ce progrès continuel d'arriver à cette fin. C'est vraiment, tu tournes en rond et au bout d'un moment, ça se débloque. Et moi, justement, sur les 3 mois que j'ai passé à San Francisco, j'ai passé 3 mois à tourner en rond et à pas trop avancer. Puis à la toute fin, quelqu'un a dit oui, ça s'est débloqué. Et voilà.
Ouais, c'est ça, c'est que ça tient quand même à un fil, entre guillemets. Enfin, il a fallu avoir la bonne personne qui dit oui, et sinon, ça serait. Parce que du coup, il y a une seule personne qui investit, ou c'était aussi d'autres angels en fin de compte?
Alors, il y a une seule personne qui a investi. Parce que j'ai préféré le faire comme ça. J'aurais pu avoir quelques personnes en plus. Mais pour garder les choses simples, je voulais avoir qu'une seule personne. Surtout que donc, ces investisseurs, ils ont une vision un peu particulière de pas forcément chercher la croissance, la hypergrowth, donc la croissance super rapide. Et donc, c'est une vision qui s'aligne de manière générale, pas avec les autres investisseurs. La plupart des investisseurs cherchent quand même une croissance rapide et grande. Donc j'ai choisi d'avoir que ces investisseurs pour l'instant. J'aurais pu en avoir quelques-uns en plus.
Excellent. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour fêter? C'était champagne ou encore même pas, vu que l'argent n'est pas dépensable?
J'ai pas encore fêté, non. Non, non. Je fêterai quand on se
C'est bon.
retrouvera. Non, mais voilà, processus donc assez prenant en termes d'efforts, mais pas si dur que ça. Après, voilà, ce n'est pas la fin de l'histoire encore parce que y a des questions fiscales maintenant qui m'énervent particulièrement parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est des fausses questions. Ça me paraît impensable que ce ne soit pas super simple de dépenser cet argent maintenant. Mais du point de vue légal et fiscal, il y a plein de questions qui se posent de, ah, mais en fait, c'est deux entités différentes. Il y en a une qui a l'argent, l'autre qui fait les opérations. Elles vont devoir se vendre leurs services, leurs propriétés intellectuelles. Tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, il y a encore ces questions à résoudre qui sont un peu ennuyeuses, mais ce sera bientôt bon.
Ouais. Et après, est-ce que tu as déjà des idées de comment tu veux dépenser l'argent? Enfin, du coup, tu as mentionné que tu as baissé avec les dépenses pour agrandir ta runway, mais du coup, maintenant, tu as plus d'argent que jamais, finalement. Est-ce que
Ouais,
ouais, tu as
ouais.
prévu de dépenser ou même pas, en fait, l'argent?
Alors, comment? En fait, l'idée principale que j'ai là avec cet argent, hormis me payer mon salaire, c'est faire du marketing. J'ai enfin de l'argent pour faire du marketing vraiment. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait dans ce projet. On a toujours testé de faire du marketing, mais un peu avec un budget minimum, sans dépenser d'argent, à part dans les personnes qui gèrent le marketing. Donc là, pour la première fois, on va pouvoir faire des pubs. Je vais pouvoir payer des influenceurs, donc voilà, on va pouvoir faire ces tests-là, et ça, j'avoue que ça me motive pas mal, et j'ai hâte de faire ces tests-là, parce que c'est quelque chose qu'au final tout le monde fait, qu'on n'a pas fait, donc ça va être intéressant de voir comment ça affecte notre croissance, quoi.
Ce sera sûrement un autre sujet intéressant, justement. User acquisition, un autre sujet de podcast. Interesting. OK, bah déjà, félicitations. Incroyable. Parce que moi, justement, jusqu'à la fin, je me suis encore dit, aïe, aïe, et si maintenant, tout d'un coup, l'investisseur changeait d'avis ou dit, ouais, finalement, on dit non.
Alors, ouais, j'étais pas très serein. Disons que entre le mois qui s'est passé, entre le moment où ils ont dit oui et le moment où j'avais tout bon pour mon signe, je leur ai envoyé les bilans financiers, je leur ai envoyé les metrics, et ça faisait un mois qu'ils avaient dit oui. Donc, J'étais pas très serein que le oui tienne toujours, en fait. À tout moment, ils me disaient, en fait, non. Et ils auraient pu le faire. Rien, à part leur réputation, ils auraient très bien pu le faire. Donc, et je sais que ça arrive. Hein. J'ai vu aussi, il y a des gens qui rappellent souvent dans les podcasts qu'un oui, c'est pas vraiment un oui tant que c'est pas signé. Donc, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas américain et qui veut lever des fonds avec des investisseurs américains, moi, j'ai attendu d'avoir vraiment le oui pour créer l'entité américaine parce que je voulais pas créer l'entité si je ne levais pas de fonds. Mais au final, l'entité américaine, ça coûte pas très cher de la faire. Ça coûte moins de 1 000 dollars ou 1 000 francs. Mais par contre, ça prend du temps. Donc en fait, avec du recul, j'aurais peut-être choisi de créer la société américaine plus tôt. Au pire, j'aurais dépensé 1 000 francs pour rien, j'aurais juste laissé cette entité en veille. Mais ça m'aurait permis d'économiser ce mois de galère un peu et de pouvoir signer tout de suite quand ils disent oui et recevoir l'argent rapidement. Parce que, en soi, si l'entité américaine existait, je pense qu'en une semaine, à partir du moment où ils disaient oui, on avait l'argent. C'était juste regarder le contrat. Le contrat, c'était un safe basique, et puis valider et recevoir l'argent, quoi.
Ouais, excellent. Mais ça donne presque envie, hein, intéressant. Ouais, bah, en tout cas, moi ce que j'aime aussi avec l'investisseur qui a dit oui, c'est justement leur philosophie aussi de qu'ils ne s'attendent pas à ce que tu lèves forcément des fonds, qu'ils s'attendent presque que tu deviennes profitable à partir de ça. Ce qui est réaliste, je pense aussi pour ça qu'ils ont investi. Est-ce que maintenant tu t'attends encore à d'autres bénéfices, entre guillemets, de faire partie de cette communauté? Enfin, je sais pas, de rejoindre leur Slack ou il y avait cette histoire qu'ils organisent un summit, un truc comme ça. Est-ce que ça, c'est un truc qui. Ouais, que tu penses qu'il va faire une différence ou en soi même pas, c'est vraiment exactement. Ou alors même que le partner va être un conseiller, un truc comme ça, un advisor ou concrètement pas du tout.
Alors, j'ai regardé un peu, je crois que leur sommet, ils ne l'ont pas fait depuis quelques années, là. Ils doivent avoir une communauté, mais je n'ai pas encore été ajouté. Donc oui, j'ai un peu d'attente que ce soit une petite communauté où je peux rencontrer d'autres personnes avec des projets cool. Mais je pense que c'est à peu près ma seule attente. Après, les conseils du partner, je pense pas qu'il va dédier beaucoup de temps. Il y aura peut-être quelques conseils intéressants à certains moments clés. Mais je n'ai pas particulièrement d'attente à ce niveau-là. Ma seule attente, c'est oui, en fait, il y a plein d'autres. Du coup, ils ont réuni pas mal de gens qui ont des situations similaires à la mienne, donc ce serait intéressant de discuter avec eux. Et s'ils refont leur summit, ce serait cool comme expérience. Mais voilà, après, à part ça, là, ça fait quoi? Enfin, quelques semaines qu'on a eu notre dernière interaction avec le virement. Pour l'instant, c'est notre dernière interaction, donc je pense que ça va être assez minime.
Excellent. Donc maintenant, you are worth six figures.
Ouais.
Joli. D'autres, je sais pas, trucs encore à raconter sur le processus ou des anecdotes ou un truc qui pourrait être intéressant à quelqu'un qui se pose des questions là-dessus ou it's a wrap.
Bah, on a parlé de faire le parallèle avec la Suisse. En Suisse, j'avais un petit peu commencé le processus. J'avais un petit peu commencé à discuter avec des investisseurs, sans avoir forcément un pitch deck qui était optimisé, sans avoir. Voilà, je commençais à peine, donc tout n'était pas encore bien ficelé. Mais j'ai assez rapidement senti que j'aimais pas trop ce vers quoi ça m'amenait. En fait, encore une fois, en Suisse, on avait discuté la dernière fois quand on parlait de l'écosystème. C'est un exemple que je sors souvent, mais pour moi qui parle beaucoup, c'est que une des questions qu'on me pose assez rapidement, pas tout le temps, mais je l'ai reçu pas mal de fois, est-ce que vous avez déposé un brevet ou pas? Et ça, pour moi, c'est la question éliminatoire. Si un investisseur dans le numérique, sur une application consommateur B2C, s'il te demande si tu as déposé un brevet, c'est qu'il comprend pas le milieu, quoi. Mais ça, c'est un exemple. Il y a eu quelques autres trucs qui sont sortis dans les interactions. Je sentais que leur focus n'était pas forcément au bon endroit par rapport à ce que j'aurais pensé. En l'occurrence, sur les chiffres, les investisseurs, c'était C'était vraiment orienté, c'est quoi votre rétention, c'est quoi votre conversion, c'est quoi vos revenus, comment ça évolue. Donc il y a une expérience beaucoup plus grande dans les investisseurs dans le digital aux États-Unis. Donc, si quelqu'un dans la même situation d'avoir une startup qui est digitale, qui n'est pas basée sur un algorithme particulièrement innovant qui pourrait être breveté, ça peut arriver des fois, c'est rare. Si on parle d'un business digital, je conseillerais fortement d'aller là-bas lever des fonds. En tout cas, d'aller là-bas, voir commencer, faire quelques événements, avoir quelques discussions, puis se faire son opinion. Mais plutôt que rester en Suisse et essayer en Suisse. Après, c'est toujours possible, hein, ça arrive. Il y a quand même quelques investisseurs et quelques startups qui ont réussi à faire leur place digitale en Suisse. Donc c'est possible, mais c'est plus dur.
Moi, je t'ai parlé la semaine passée de cet autre mec que j'ai rencontré qui avait sa startup en Suisse que j'ai rencontré. Et puis, du coup, j'étais tout excité. Je me suis dit, waouh, startup dans l'intelligence artificielle, quand est-ce que tu pars pour San Francisco? Tout le monde parle que de ça là-bas. Tu vas pouvoir lever des fonds comme pas possible. Et il était en fait en train de fermer sa startup, tout déçu, tout déprimé, et de dire, en fait, c'est un monde. Horrible, ces investisseurs ne me comprennent pas. Et je dis, attends, mais quoi? Ils veulent tous investir dans des trucs d'IA, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, j'ai réalisé qu'il parlait d'investisseurs suisses. Et ouais, dans son cas, enfin, du coup, maintenant, il va devenir prof. Hein, bah, et ça, c'est très bien aussi. Mais disons, un peu dommage de voir comme ça un entrepreneur qui avait réussi à faire un truc cool, donc de créer cette IA qui génère de la musique. D'avoir réussi déjà à créer un premier concert, enfin de vraiment faire un truc avec ça, et ensuite d'avoir aussi reçu un investissement de l'EPFL comme tu avais reçu. Mais ensuite de voir le truc se crasher juste parce qu'il parle pas aux bonnes personnes. Et il était vraiment dégoûté par ce monde, et entre guillemets maintenant en train de rêve d'un monde où il n'y a plus d'argent parce que tous les investisseurs sont méchants et ce monde-là est horrible. Donc un peu triste à voir. Ouais.
Très triste, surtout qu'il est vraiment en plein dans le cœur de la hype à San Francisco. Il
C'est
aurait
ça.
clairement pu lever beaucoup d'argent. Surtout qu'il est tout seul, donc il n'avait pas non plus besoin de beaucoup de dépenses. Ouais, assez triste. Mais après, les investisseurs suisses, ils font peur, les investisseurs américains aussi. Hein. C'est vrai que quand j'ai commencé à rentrer dans ce monde, mes premiers jours à San Francisco, c'est beaucoup, quoi. Je pense que c'est aussi possible de prendre peur. Enfin, ouais, les deux peuvent faire peur parce que tu rentres dans un monde où tout le monde connaît bien les modes, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Tout le monde connaît les bons termes, a des exemples en tête. Quand tu arrives et que tu n'as pas ces connaissances-là, tu es un peu le considéré comme l'enfant qui joue avec ses jouets et qui connaît pas vraiment, quoi. Donc au début ça fait un peu peur et faut être assez bon à le cacher, hein. Le truc américain de fake it until you make it, faut que tu fasses genre que tu connais tout ça jusqu'à ce que tu le connaisses vraiment. Mais au début, je pense que d'ailleurs j'ai noté dans mon carnet les premiers jours à San Francisco, j'ai senti un peu ce waouh overwhelming. Ces gens qui s'y connaissent beaucoup et qui sont capables de dire, ah oui, cette startup, elle a levé pourtant, et tout ça. Ah ouais, c'est montant, ouais, c'est pas mal. Ou alors, ah non, ça, c'est délirant, ça se fait pas, tout ça. Donc, ça fait un peu peur au début, mais après, ça va.
Ouais, je me rappelle encore aussi la différence entre quand je t'entendais toi pitcher ta startup versus quand on parlait à d'autres founders. Et comme chacun est tout le temps en train de changer le monde, et puis toi, c'est oui, je développe une petite application B2C, voilà, voilà. Mais j'aime bien
Ouais.
en fait, l'aspect un peu plus modeste de européen ou suisse, entre guillemets. Mais évidemment, du coup, ça fait pas le figure là-bas.
Ouais, non, ça c'est hyper intéressant de. C'est pour ça que je conseille à tout le monde, alors, qui sont dans le milieu digital, d'aller faire un petit tour là-bas pour voir juste, faire des événements et rencontrer, voir comment les gens pensent, et notamment comment les gens pitchent. Parce qu'effectivement, là-bas, tu es obligé de dire que tu vas changer le monde et vendre du rêve. En Europe, on a un peu plus tendance à être pragmatique et dire voilà, on en est là. Surtout moi, je pense que je suis un peu à l'extrême là-dedans. C'est réaliste. Donc, ça m'a pas mal aidé de pousser un petit peu vers un entre-deux. Je crois que tu étais déjà parti, mais j'étais allé à un événement de pitch, de startup qui était issu de l'incubateur de Google, qui s'appelait quelque chose de 120, je ne sais plus exactement. Et c'était que des startups qui étaient assez jeunes, souvent, qui avaient soit un MVP, soit pas de produit du tout. Et les pitchs étaient incroyables. C'est-à-dire que même moi, j'avais envie d'investir dans une startup, alors que c'est rien. Mais ils pitchaient super bien, et ça, c'est des choses assez fou. Donc c'est intéressant de voir là-bas, ouais, comment les gens font.
Excellent. Bien, alors je crois qu'on a fait le tour de ce sujet, des investissements, en tout cas de notre ou de ta petite expérience là-dessus. Merci beaucoup. Mot de la fin. How do we wrap it up?
C'est quoi toi ton toi donc t'as choisi la route de ne pas lever. On peut aussi discuter de la motivation de...
Franchement, de lever des fonds d'un investisseur qui dit que c'est OK que tu ne deviennes pas énorme, ça casse beaucoup de mes arguments de ne pas lever des fonds. Parce que moi, c'était un peu ça la raison de ne pas lever des fonds, c'est de dire j'ai envie de développer un lifestyle business. Mais donc, dans le cadre de ce fonds-là, j'ai moins de raisons de ne pas lever. Mais peut-être, alors, encore une raison, là, j'ai vu récemment un tweet de Paul Graham, le mec qui avait créé Y Combinator, qui disait, en fait, pour lui, ça fait toujours sens de lever des fonds. Enfin, et il dit, en gros, pourquoi est-ce que la growth de ta startup devrait être liée à tes revenus, dans le sens que si tu ne lèves pas de fonds, tu ne peux que dépenser ce que tu gagnes. Évidemment, c'est un argument très pro-lever des fonds et du coup pro-YC, et je comprends qu'il dise ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de quand même super intéressant à être restreint en termes d'argent et de pouvoir dépenser que ce que tu gagnes, dans le sens que ça te force à faire des défis, à prendre des décisions difficiles, et à t'es plus proche de la réalité, quoi. Typiquement, tu pourrais demain embaucher 5 personnes à plein temps et te créer une grosse boîte, mais du coup, ton expérience day-to-day serait extrêmement déconnectée de la réalité financière de ton entreprise. Et ça, c'est quelque chose que je pense que quand même super intéressant. Et à l'inverse, pour moi, du coup, le fait de dépenser extrêmement peu, à force que les revenus gagnent, le fait d'avoir, je sais pas, 200, 300, 400 euros par mois de profit, c'est déjà, tout d'un coup, ça paraît énorme, parce que je suis tellement proche de la réalité de l'entreprise. Et du coup, tout d'un coup, je vois ça comme du capital que je peux dépenser en marketing. Et du coup, tu fais aussi beaucoup plus gaffe. Tu vois, je vais jamais dépenser 10 000 euros en marketing d'un coup, alors que si tu as beaucoup d'argent sur le compte, enfin, ton droit à l'erreur est beaucoup plus grand du fait d'avoir beaucoup d'argent, et du coup, tu vas probablement aussi être moins, disons, soigneux avec comment tu dépenses ton argent. Mais bon, vu que c'est de l'argent d'investisseur, pourquoi pas?
Ouais, non, c'est complètement. D'ailleurs, moi, j'avais fait cette erreur avec de l'argent que j'avais réuni quand j'ai créé ma société en Suisse, avec des prêts que j'avais fait pour réunir le capital nécessaire quand tu crées une SA. D'un coup, j'avais beaucoup d'argent, donc d'un coup, je me suis dit, en fait, on est bien, je vais embaucher des personnes, et en fait, très vite, on n'avait plus d'argent, et il a fallu licencier ces personnes. Donc, comme tu dis, quand on a l'argent, on est déconnecté, on a tendance à vouloir dépenser, ce qui fait qu'aussi, maintenant, j'ai eu cette expérience. Je suis passé par la case difficile de devoir licencier des gens, qui est un autre sujet, mais ça change la perspective. Et c'est pour ça que maintenant, même si j'ai des fonds, j'ai réduit les dépenses et j'ai décidé de ne pas refaire cette erreur d'essayer de grandir trop vite. Après, admettons que ton but, ce soit d'arriver à une petite équipe de 5 personnes qui bossent sur ton projet, que ce soit sympa, que ça avance bien. Il y a plus de chances d'y arriver en ayant de l'argent et après de devenir sustainable plutôt que de grandir à partir de seulement les revenus. Parce que, comme tu dis, bah, il y a l'argent que tu peux mettre en marketing, il y a un peu le risque. C'est-à-dire que je pense qu'entre la situation où tu dépenses simplement les revenus que tu as, où là tu dois vraiment faire grandir ton revenu petit à petit pour pouvoir embaucher une, puis deux, puis trois personnes, versus la route où tu as plein d'argent, tu peux payer ces gens au début grâce à cet argent et tu dépenses un peu en marketing. Je pense que cette voie-là, tu as plus de chances d'arriver à ce but-là. Après, est-ce que c'est un but ou pas? Est-ce que c'est une route qui est aussi du coup plus risquée parce que tu peux peut-être pas y arriver? Mais je pense que l'effet avoir de l'argent à dépenser en marketing et donc améliorer la croissance, plus le stress, un peu le risque que voilà, dans un an, tu n'as plus d'argent, te force un petit peu à faire des choix très orientés sur les revenus, ça aide. Moi, je sais que le fait d'avoir pendant longtemps été dans cette voie où je dépensais que sur les revenus que j'avais, je pense que j'ai moins fait cette prioritisation de ah, ça c'est moins utile maintenant pour augmenter nos revenus, du coup je le fais pas, je le fais plus tard. Je me suis donné plus de liberté dans ce que je faisais, vu que j'avais pas de timeline, pas de deadline particulière.
Mais après, c'est vrai que si on proposait un investissement comme ça, je dirais probablement oui aussi. Donc, ouais, il y a quand même l'attrait de l'argent. Ouais. D'ailleurs, franchement, maintenant que j'ai vu ça avec ce fonds, je pense que si un jour Vocal arrive comme ça autour des 2-3 000 de revenus récurrents par mois, pourquoi aussi pas envoyer un petit formulaire? Mais pour moi, il y aurait vraiment aussi un aspect que ce serait une manière de faire d'avoir juste plus de capital. Et comme j'ai dit, que je sortirais presque de la boîte, comme une manière de dire j'ai envie de me dérisquer. Ok, ils investissent, ils prennent une partie du risque, et du coup, moi, je prends une partie de l'argent que je sors pour moins réduire mon risque, pour typiquement acheter un appartement ou un truc comme ça, et voir à nouveau à quel point c'est magouillable, mais. Ce serait plus près son style de vie.
Ouais. Bah, moi, j'avoue que justement, dans la décision, quelque chose qui a beaucoup pesé, c'est mes revenus personnels. En fait, sans cet argent-là, j'étais capable de me verser un salaire qui me permettait de vivre, mais j'avais des prêts, j'ai des prêts personnels qu'il faut que je rembourse, et ça, je pouvais pas mettre de côté, et je devais quand même vivre de manière assez, j'étais assez limité. Une des raisons qui a pesé dans la balance, c'est que je pouvais enfin me payer un salaire normal. Donc voilà, c'est aussi quelque chose. Si j'avais été dans une situation où mon projet me permettait de vivre, bon, ça aurait peut-être été aussi un peu différent. Là, c'est vrai que ça change aussi la donne, quoi. De pouvoir être payé normalement, tout en bossant sur ton projet, c'est quand même agréable.
Non, fou. Excellent. Bah, félicitations encore une fois. Je prends évidemment tous les credits. Hein. C'est moi qui ai décidé qui t'ai dit d'aller à San Francisco. Donc je me sens
Oui,
absolument
complètement.
responsable du succès.
Ouais,
Non, bravo à toi. Et puis maintenant, ouais, résous tes problèmes légaux, puis ensuite regarde. Quelles seront les premières campagnes marketing?
plaisir, on pourra analyser ça.
Très bien.